avec nous pour cette édition en ligne du festival Effraction, pour cette rencontre avec Dominique Dupart et Haroun. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dominique, vous venez de publier La vie légale chez Actes Sud. Et vous, Haroun, en attendant de vous retrouver sur scène, on peut vous découvrir en librairie avec le livre Les pensées d'Héractète. C'est publié aux éditions des Équateurs. Alors bien évidemment, on va parler de ces deux ouvrages dans quelques instants, mais j'aurais aimé commencer cette rencontre avec le titre qui lui a été donné, un titre que vous nous avez soufflé, Dominique, face au séparatisme littéraire. Littérature et humour. Alors je vous la pose, cette question justement, face au séparatisme, que peuvent la littérature et l'humour ?
Alors avant toute chose, je voudrais dire qu'on est le 17 février, voilà, et que donc la rencontre est enregistrée ce jour du 17 février. Alors maintenant c'est compliqué, vraiment le titre là, il paraît qu'il faudrait que je le défende. Je dirais qu'on n'aurait pas du tout envie d'employer ce mot-là, Haroun. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même un mot très laid.
Oui.
Non mais moi, comme je suis supposée représenter la littérature et donc la beauté, c'est normal.
Parce que l'humour, ce n'est pas beau.
Voilà, c'est normal qu'on introduise.
Il peut y avoir une esthétique du séparatisme, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut en fait, j'ai l'impression que le séparatisme, il peut être de diverses formes et souvent il englobe les gens plus qu'il ne leur donne le bénéfice du doute. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme ça et j'ai l'impression qu'en tout cas, me concernant dans la pratique de l'humour, j'essaie de montrer qu'on est tous différents ou tous pareils. Soit on est tous différents, soit on est tous pareils, mais c'est difficile de dire ce groupe-là, ils sont tous pareils, ce groupe-là, ils sont tous pareils. C'est difficile de le faire. Donc, en gros, moi, en humour, j'utilise les clichés pour les déconstruire ou j'utilise ma propre bêtise, mes propres préjugés pour les déconstruire et pour passer pour le clown de service qui se trompe sur ses pensées. Voilà, vraiment, je vais pousser mes pensées vers l'absurde. Et donc, j'essaie d'assumer mon propre racisme ou d'assumer mes propres envies de séparatisme pour les rendre ridicules. Voilà. En gros, je schématise, je ne sais pas si c'est très clair. Mais
d'ailleurs, vous le dites sur scène, vous dites « je suis islamophobe, je suis aussi antisémite parce que je ne peux pas aimer tous les musulmans qu'il y a dans le monde et je ne peux pas aimer tous les juifs qu'il y a dans le monde. »
Et cette idée m'a été inspirée par Hannah Arendt qui le dit. Elle dit « je ne peux pas aimer tout un peuple. Ce n'est pas possible. Il y a des gens différents dans un peuple, donc je ne peux pas les aimer. » Mais par projection, ça veut dire qu'on ne peut pas détester tout un peuple. Et donc c'est une idée forte parce que à partir cet amour qu'on pourrait avoir pour des gens, par opposition il y a la haine qu'on pourrait avoir pour des gens, et j'ai l'impression que moi en humour ça m'a inspiré. J'ai l'impression que quand je lis de la littérature, parce que je suis pas un écrivain, mais quand j'en lis, j'ai l'impression qu'il y a ces subtilités, cette envie de créer des personnages qui ressemblent aux clichés qu'on se fait de quelqu'un, mais qui sont plus profonds que ça. Et en fait, c'est ça, je pense. Enfin, je ne sais pas comment tu construis tes personnages. Est-ce que tu pars de ce qu'ils représentent et puis après, tu extrapoles et tu leur crées des émotions, etc. Ou est-ce que tu, par rapport à ce qu'ils ont comme émotion ou expérience de vie, tu les insères dans une perception. Je ne sais pas trop comment tu construis tes personnages, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, quand je lis de la littérature, je me pose pas la... les personnages sont bien écrits, je ne me pose pas la question à qui ils appartiennent, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le rire, dans l'humour, qui fait que les gens qui rient en vous voyant sur scène ou en regardant des vidéos sur Internet, c'est quelque chose qui aussi permet après l'échange, le débat, qui permet justement de désamorcer certaines choses. Et dans la littérature, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça permet justement de vivre d'autres vies que la sienne.
Je vais répondre à la question.
Bien sûr, mais c'est parce que ça allait dans le même sens, c'est-à-dire c'est par rapport à ce que pouvait la littérature. Je disais que ces personnages-là, ça permettait justement de se mettre dans leur peau et de vivre d'autres vies que la sienne.
Oui, alors je sais pas comment on est passé de la notion de séparatisme à la notion de personnage. C'est-à-dire qu'en fait, y aurait des lois qui sont en train d'être discutées en ce moment à l'Assemblée pour définir ce que c'est le séparatisme. Et cette définition, ce que tu voulais peut-être dire, c'est que cette définition, elle immobilise les gens.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire elle fixe les populations, elle fixe les identités. Alors qu'en travaillant en tant qu'humoriste, l'enjeu c'est de défixer, c'est de décoller les étiquettes. C'est de rendre possible une mobilité, en fait.
Je ne peux pas représenter tous les humoristes.
Alors, ton travail.
C'est ce qui m'intéresse, travail. Moi, mais je ne suis pas sûr que l'humour soit toujours une solution. Je ne vais peut-être pas dans mon sens, mais je ne suis pas sûr que l'humour soit toujours une solution.
Il y a le tragique aussi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux me tromper, je peux vexer des gens. Il y a d'autres humoristes qui peuvent utiliser des clichés et les assumer aussi. C'est comme la littérature ou l'humour, il y a plein de choses qui sont faites, il y a un éventail très large, et on pourrait très bien lire de la littérature séparatiste, même si les écrivains en général essaient d'être plus profonds, mais on peut. Y a différentes
formes de, un manifeste de la littérature séparatiste qui serait signé par. Par le gouvernement.
Non, par exemple, mais la question que je t'ai posée sur les personnages, c'est que c'est dans les extraits que j'ai lus de ton livre, c'est en effet, il y en a qui si c'était matérialisé et qu'on les voyait dans la rue, il pourrait y avoir un avis sur eux qui est un avis, ce sont des séparatistes, et pourtant. Ils discutent dans le livre, ils ont des débats, ils ont des discussions qui sont légitimes pour eux et par rapport à ce qu'ils savent qu'ils représentent.
Ah oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. Oui, donc en fait, c'est ça, c'est l'idée, c'est que possiblement, dans la vie légale, les personnages soient des séparatistes. Alors, moi je dirais, c'est compliqué de parler de ses propres personnages, mais je dirais que... Le titre, La vie légale, implique en réalité qu'il ne peut pas y avoir de séparatisme, puisque l'idée du séparatisme implique des structures sociales immobiles. Or, l'enjeu de la vie légale, l'enjeu d'être légal, de devenir légal, ou de pas l'être, implique toujours des aventures, des entreprises, des obstacles à franchir, des actions à accomplir. En fait, vivre un régime d'existence pour réussir à être légal quand on ne l'est pas originellement, ça implique de se mouvoir au sein du pays, de changer de place, de pouvoir changer de place, d'arriver à être différent. De manger une nourriture qui soit différente de la sienne, de pouvoir tomber amoureux de personnes de cultures différentes de la sienne. Un ensemble d'actions qui peuvent faire des péripéties dans un roman, je crois que c'est le cas. Et à cela, je dirais que le séparatisme, l'idée du séparatisme, je ne sais pas qui a inventé ce mot-là, c'est cette idée-là rend impossible la mobilité, le flux ou les mises en action. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, très.
Oui.
En fait, il y a un effet aussi... Il y a peut-être un effet réseau social qui nous fige dans ce qu'on est à un moment de la vie. Ce qu'on écrirait à 18 ans, ce n'est pas forcément ce qu'on écrit à 30, ce n'est pas forcément ce qu'on écrit à 60. Et à 145. Donc oui, il y a ce problème de définition du séparatisme qui fige en effet et qui, en plus avec la légalité ou la définition légale du séparatisme, fait qu'on va être enregistré ou fiché comme, comme séparatiste parce qu'on a fait un jour quelque chose, mais...
Moi, par exemple, je travaille à l'université. Alors, en ce moment, il paraît qu'il va y avoir une chasse aux islamo-gauchistes au sein de l'université. Donc, alors, je veux demander pardon parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle La vie légale et je voudrais pas qu'on puisse porter des soupçons sur mon travail de chercheuse.
C'est trop tard.
C'est fini. Voilà. On a donné les coordonnées.
Il y a la police qui t'attend à la sortie.
Voilà, enfin, je demande pardon.
Et peut-être, Haroun, vous posez la question de la création des personnages. Et c'est vrai que dans La Vie Légale, on suit plusieurs personnages, notamment plusieurs femmes. Comment est-ce que ces personnages sont arrivés ? Je crois que c'est la question qui vous posait. C'est-à-dire, est-ce que ça vient de l'idée et après, on a le personnage qui arrive ? Ou est-ce que ce sont des personnages qui sont nés par la force de l'imaginaire, par l'envie de raconter une histoire et que les personnages ne répondaient pas forcément au départ à à un cahier des charges finalement, mais qu'ils ont pris vie au fur et à mesure de l'écriture. Comment est-ce que tous ces personnages de La Vie Légale sont nés ?
Ben merci pour toutes ces questions. Alors ce qui est intéressant dans les rencontres, c'est qu'on peut inventer des théories éclairs. Et je dirais que on pourrait dire qu'un bon personnage, c'est un personnage qui échappe, évidemment, telle la créature de Frankenstein, à son inventeur. Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup le personnage qui s'appelle Bel Abed au sein du roman, parce que quand on lit sa carte d'identité, il est juste invraisemblable, puisqu'il s'agit d'un légionnaire français qui renie absolument l'ensemble de ses origines, de son pays d'origine, de sa culture d'origine, au point d'en martyriser sa fille.
Qu'il veut que ce soit une fille républicaine.
Voilà, qu'il veut républicaine et qu'il a appelée Marianne Lally. Évidemment, l'idée de ce personnage, ce légionnaire qui souhaite laver plus blanc que blanc et qui veut se blanchir, et c'est un personnage, je l'ai pas, il est venu tout seul d'une certaine manière, sa monstruosité, parce que c'est pas quelqu'un de forcément très sympathique, Bel Abed, sa monstruosité m'a dépassé moi-même.
Donc au départ, tu voulais construire le père d'une fille et avec le rapport qu'ils ont et au final tu t'es concentré sur lui et il est parti et il a fait sa propre histoire.
Au départ mon père est mort et j'ai eu le sentiment qu'il ressuscitait dans le personnage de ce vieux débris comme il s'appelle lui-même, ce vieux légionnaire, et puis étrangement ce fantôme de mon père est devenu un monstre républicain. Et ce monstre républicain, mon père était anarchiste, hein, donc ce monstre de droite qui plus est. Et ce monstre républicain martyrise sa fille, on peut le dire, ne souhaite pas qu'elle porte le voile.
D'accord.
Ce qui fait qu'à un moment, elle va décider de partir et on voit qu'il a aussi des relations très compliquées avec ses fils, où il comprend rapidement, il le dit lui-même, qu'il ne s'assimilerait jamais. Et au fur et à mesure, il voit les enfants partir et finalement, tout son rêve, son beau rêve de justement d'intégration républicaine, d'un seul coup, on voit que ça se heurte à sa réalité à lui.
Oui, il dit aussi beaucoup de mal de la SNCF parce qu'il a été contrôleur de billets à la SNCF.
Il y a beaucoup de feignants.
Mais toi, Haroun, toi, tu les joues, les personnages. Tu joues le personnage de...
Oui, plus ou moins, mais...
Si, c'est un jeu, si tu les incarnes.
Oui, j'incarne un personnage. Globalement, j'incarne un personnage. Mais qui est... qui peut se permettre beaucoup de choses, en fait. Je peux me permettre beaucoup de choses parce que... j'ai l'impression d'avoir un personnage qui est très bête intelligemment, en fait. Je peux avoir des réflexions très logiques dans ma bêtise. Et c'est ça que je trouve marrant, c'est de construire la logique de chaque personnage. Et quand j'en raconte un, il a sa propre logique et il fait ses propres conclusions, et quitte à ce qu'elles soient fausses, mais à partir du moment où c'est logique... C'est bon.
En fait, le fait que tu sois sur la scène, ça t'autorise, en fait. Ça t'autorise à franchir la ligne. Sans qu'on se fâche. Puisque c'est de la scène.
Non, mais en vérité, ce qui m'autorise à franchir la ligne, c'est le fait d'avoir construit petit à petit, en y allant pas à pas, une espèce d'identité humoristique où on sait qu'il n'y a pas de doute sur mes intentions.
Ah, donc ça
m'autorise. Mais d'accord. Si j'arrivais en premier sketch de qui est rendu public sur Internet avec je suis pas islamophobe, enfin pas que, je suis aussi antisémite, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Il a fallu que j'aille pas à pas construire tout ça et déconstruire des pensées qu'on aurait pu me prêter.
Et alors, est-ce que tu dirais, c'est vraiment une hypothèse, est-ce que tu dirais que, enfin, ça fait combien de temps en fait que t'es dans que tu fais ce travail, tu fais ce métier?
Depuis 2016, je fais ce métier.
2016.
Avant ça, je pratiquais sans être professionnel.
Donc 2016-2021. Est-ce que tu dirais que, considérant l'actualité, le travail est plus difficile ou pas?
Non. Non, il est. Moi, je le trouve plus intéressant encore. On a un vrai problème de, et c'est le thème en plus du festival, de représentation de ce que c'est que la réalité. Et la réalité, elle est soufflée par des gens qu'on croit influents ou qu'on croit intelligents. Mais en réalité, quand on est devant un public qui est venu rire à ses blagues, j'ai jamais eu aucun problème. Quelques remarques parfois, et d'ailleurs, ce ne sont pas les séparatistes qui m'ont fait des remarques. Mais je pense que le public est prêt à recevoir beaucoup, beaucoup de choses. Il est très ouvert. Et ceux qui l'ouvrent le plus sont, un, pas nombreux, deux, pas du tout représentatifs de la société, ou trois, ce sont des gens qui sont exposés dans les médias et qu'on croit importants, alors que dans 2 mois, on les aura oubliés pour X ou Y raison. Donc je suis pas d'un avis négatif et je pense même que cette représentation du séparatisme, elle est faite parce qu'on ne donne pas la parole aux gens qui sont au contact du réel en fait. Donc il y a énormément de débats qui naissent. Et en fait, quand on creuse un peu, quand on gratte un peu, quand on enlève l'émail de ces trucs, de cette phrase qui est prise hors contexte, etc., il n'y a pas grand-chose et la vie continue globalement. Donc, je suis pas aussi alarmiste. Maintenant, je sais bien qu'il y a des tensions, mais ces tensions, j'aimerais bien savoir si ces tensions, elles naissent vraiment des tripes, donc du fond, et si elles sont vraiment organiques, ou si elles naissent de cette projection qu'on fait, et j'en suis plus persuadé, ouais.
Oui, moi je dirais qu'on vit dans une société de discours hyper saturé, au sein de laquelle il y a des énoncés qui nous arrivent en rafale, des énoncés qui répètent toujours la même chose, mais des énoncés de mobilisation. Et il faut toujours qu'on soit mobilisé, avec ceux qui dénoncent le séparatisme, ou au contraire, qu'on soit mobilisé avec ceux qui sont l'objet de la loi contre le séparatisme. Voilà, on est toujours supposé être enrégimenté, enrôlé, avec des espèces de termes étranges. Des gens sont traités d'ennemis de la République. On est des ennemis ou pas. On est celui qui dit que l'autre est un ennemi, etc. Donc ça, c'est juste. On est dans un bain de discours qui, sans doute, n'intéresse absolument personne, excepté ceux qui les échangent, en fait.
Oui, mais c'est du spectacle, en fait.
C'est du spectacle. Voilà. Donc l'enjeu, ce serait de créer d'autres scènes. Est-ce que c'est ce que tu fais, toi, en fait? Une scène alternative. Et de créer des textes aussi, d'autres lieux, ou peut-être aujourd'hui, ou dans d'autres rencontres, d'autres lieux où il soit possible de parler de ce qu'est ce pays sans forcément se faire traiter d'ennemi de la République ou traiter d'autres personnes d'ennemi de la République.
Mais c'est ce que vous faites aussi, c'est ce que disait Haroun quand il disait on n'entend pas forcément les gens qui vivent les situations dont les experts parlent, notamment sur les plateaux télé. Même si ce sont des personnages de fiction, vous donnez de la voix à des personnes, des personnages qu'on n'entend pas dans le débat public. Donc la littérature, quand je disais au tout début que ça permettait de vivre d'autres vies que la sienne, c'est ça aussi, c'est que ça permet de ne pas être dans la surface et d'appréhender le monde dans une certaine diversité, en tout cas d'avoir notion que c'est pas si clivé et qu'en tout cas ça se résume pas au débat qu'on peut entendre et qu'il y a plein de voix en fait différentes.
Oui, le problème c'est que la littérature est pas assez mise en avant. Donc, moi, j'ai, en fait...
je sais pas ce qu'il te faut, quand même.
Comment ?
Je sais pas.
On est quand même à la BPI.
Bien sûr, mais globalement...
T'as entendu parler de MeToo Inceste ? Ça vient d'un livre. Ça vient de la publication d'un livre.
Qui parle de quoi ? C'est autobiographique, je veux dire, c'est un truc...
Oui, mais il a quand même été dans un... Il a été publié au rayon littérature.
Il n'y a pas de problème, mais moi, je pense quand même que ça touche une certaine frange de la population et que la population qui est exposée au débat de CNews n'est peut-être pas assez à la littérature. C'est un avis personnel. Après... on pourrait aller très loin sur une critique de la littérature que j'adore d'ailleurs, mais personnellement je trouve que le
tu veux dire que c'est élitiste?
Non, c'est pas que c'est élitiste, c'est que c'est difficile d'accès. En fait, j'ai pas beaucoup d'expérience d'auteur parce que j'ai écrit un demi-livre, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les retours que j'ai eus, moi, de lecteurs, qui me disaient « je lis jamais de livre et le tien, je l'ai lu ». Et je me dis « mais pourquoi ils ont lu mon livre et ils lisent jamais de livre ?» Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit « mais en fait, est-ce que c'est parce que je suis humoriste qu'ils ont lu mon livre ? Est-ce que c'est parce que je les ai tenus au courant par les réseaux sociaux et que j'ai fait une petite vidéo et j'ai communiqué dessus ?» Et dans ce cas-là...
dans une bibliothèque, d'ailleurs.
Dans une bibliothèque. Je me pose la question. Et y en a beaucoup qui me disent « moi, je finis jamais les livres. Le tien, je l'ai fini. » Mais c'est normal, parce que le mien, c'est des pensées qui sont courtes. Et on peut le lire, on peut le picorer. C'est un apéro. Donc, je pense vraiment que la littérature... En fait, tout le monde n'arrive pas à avoir accès à la littérature, mais ça vient des choses qui sont beaucoup plus profondes. Ça vient de l'école, ça vient du fait que lire un livre, ça devient un stress pour beaucoup de gens, parce qu'ils ont lu que la veille, le dimanche soir, parce qu'il fallait rendre une fiche de lecture le lendemain, donc ils essayaient de feuilleter comme on pouvait. Enfin, moi, je l'ai vécu, j'ai pas commencé à lire à l'école. Donc ça vient de choses beaucoup plus profondes, et notamment cette relation qu'on a au livre et cette relation qu'on a à la profondeur. Parce que cet objet-là permet qu'on explore, et c'est ce que tu fais, on explore les difficultés qu'a un personnage avec ses propres problèmes. Chose qu'on n'a pas le temps de faire sur CNews, chose qu'on n'a pas le temps de faire sur Twitter, chose qu'on n'a pas le temps de faire sur tout ce qui est accessible facilement, en fait.
Oui, d'où l'intérêt de la scène, quoi.
Non, même pas. Moi, honnêtement, enfin, j'ai pas le temps de ça. J'ai pas le temps de faire ça. Moi, je fais des blagues. Donc, je suis même pas un artiste, je suis un artisan, parce que les gens s'attendent à ce que je fasse rire. Donc, la différence entre un artiste, un auteur, artiste et moi, c'est que moi, je suis comme celui à qui on vient demander un escalier, un menuisier à qui on vient demander un escalier. Il faut pouvoir monter dessus, faut qu'il soit fonctionnel. Non, mais c'est la comparaison que j'aime bien faire. On va voir un artisan, on a besoin d'un escalier fonctionnel. On va voir un artiste, on a besoin d'un escalier qui peut aller dans un musée sur lequel jamais personne ne montera. Donc, s'il est totalement alambiqué et que il n'est pas du tout, il n'est pas du tout aux normes de sécurité, c'est pas grave parce que c'est esthétique. Moi, les gens viennent pour que je les fasse rire. Donc, à partir de là, je ne peux pas aborder autant de profondeur qu'on pourrait avoir dans la littérature. Parce que y a des choses, ou alors je n'ai pas le niveau, mais il y a des choses que j'arrive pas à aborder rythmiquement, parce que sinon je vais plomber l'atmosphère et je vais me retrouver devant un public qui va perdre de l'énergie. Si je fais pas rire pendant 3-4 minutes...
C'est perdu.
Ouais, moi, non, je vais ramer, quoi.
C'est terrifiant, c'est dur. Alors que moi, on peut ne pas rire pendant longtemps.
Mais non, mais c'est ça l'avantage, c'est d'avoir le temps, en fait.
Non, mais pour en revenir sur la question de la littérature et le fait qu'elle s'adresse qu'à une élite, de la même manière, c'est terrible parce que le parallèle est assez juste, de la même manière que le personnel politique ne s'adresse qu'à une toute petite frange du pays auquel il parle, soi-disant. Enfin, il est supposé parler au pays tout entier, mais en réalité, c'est qu'une petite frange qu'il écoute, sinon on est dans le bruit, quoi.
Mmh.
Donc,
mais on est dans le bruit.
On est dans le bruit. Alors voilà, on est dans le bruit des petites phrases et des injonctions menaçantes du personnel politique. Et puis, voilà, y a aussi un bruit de la littérature, il y a aussi un bruit littéraire. Il existe parce qu'il y a une communion entre le médiatique et le littéraire. Donc même si le livre n'est pas ouvert, même si le livre n'est pas lu, des lectures sont retranscrites et apparaissent. Et
oui, il y a même des citations qui sont prises et qui sont commentées, alors qu'on sent bien que personne ne l'a lu.
Voilà. Et c'est pas grave, ça. C'est pas grave si le livre n'est pas lu. C'est comme c'est pas grave si pendant une minute, on ne rit pas pendant un spectacle. Ouais, il y a des trous, quoi. Il y a des absences, mais il y a toujours un bruit, peut-être, qui demeure. Enfin, je ne sais pas si c'est très signifiant ce que je raconte là, mais...
Mais Haroun, vous parliez de la scène et de l'écriture, justement, avec ce livre, Les pensées d'Héraclète, donc qui sont les pensées de ce fameux philosophe du VIe siècle, selon sa fiche Wikipédia, bien évidemment, qui a été créée. Quand même, cette fiche nous précise qu'il a été inventé, ce philosophe, de toute pièce, par un auteur prétentieux qui l'utilise pour briller en société,
ouais. Comme
donc,
moi.
Selon Héraclète. Non, mais vous parliez du rythme et de la scène, et c'est vrai que quand on regarde vos spectacles, on voit à quel point, si on s'interroge un tout petit peu sur la mécanique, à quel point il faut penser à tout et comment est-ce que chaque sketch ou chaque passage qui traite d'un sujet différent doit être lié de manière logique. Et on se dit, la mécanique, elle est tellement compliquée pour que, pour le spectateur, ça ait l'air d'une fluidité folle et qu'on ne voit pas passer l'heure ou l'heure et demie. Comment est-ce que vous avez travaillé ce livre, justement, ces pensées d'Héraclète, où c'est une page, deux pages? Est-ce que ça vous a permis, justement, de vous échapper un instant de cette nécessité, non pas du rythme, mais justement d'avoir des liens logiques entre chacune des phrases, entre chacune des punchlines, et là, d'avoir voilà, une pensée, quelque chose qui passe, je la pose sur le papier, et voilà, ça fera une petite partie. Est-ce que c'est ce que vous a permis, finalement, l'écriture de ce demi-livre, qui est un livre tout entier?
Oui, oui, non, enfin, je dis demi-livre parce que c'est un livre qui se prend dans n'importe quel sens. Enfin, c'est un livre qui est un accès pour moi. Enfin, l'idée, c'était que c'est pas d'écrire de la philosophie, l'idée, c'était de désacraliser la philosophie pour qu'on ait envie d'aller lire d'autres livres de philosophie. C'est pour ça que je parle de demi-livre, j'essaie de mettre de la modestie dans le fait d'avoir écrit un livre, quoi, parce que
c'est bien d'être
parce que je suis conscient du travail que c'est. Ça a pas toujours été en plus facile. Il y a des périodes qui sont dures dans l'écriture d'un livre, mais en tout cas oui, ça m'a permis de me détacher de cette obligation du rire. Même si je lâche pas ces idées que j'aurais pu développer sur scène, mais pour lesquelles j'avais besoin d'un rythme différent, j'avais envie de développer différemment, et ça, j'avais la possibilité d'être juste dans le sourire ou dans rien du tout d'ailleurs. Mais voilà, c'était des pensées que j'avais envie de développer à l'écrit, parce qu'elles ne sont pas perçues de la même façon à l'écrit qu'à l'oral, et qu'on ne comprend pas de la même façon selon si on est en train de les lire ou selon si on est en train de les écouter. Y a cet effet, peut-être ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent de lire les paroles d'une chanson, parce que quand j'écoute la chanson, souvent je me déconcentre, j'écoute l'air, j'écoute voilà, et il y a des choses parfois que j'ai envie de lire pour recomprendre et revoir comment c'est organisé. Et c'est ce qui fait qu'on peut écouter plusieurs fois une chanson. Un livre, le fait de l'avoir chez lui, de l'avoir chez soi, pardon, ça permet de le reconsulter, ça permet de recomprendre différemment. Donc, peut-être que les idées peuvent être traitées aussi différemment. Et c'est la limite d'un spectacle d'humour.
Moi, je dirais que s'il y a un point commun entre l'humour et... aussi fonctionnel, aussi mécanique peut-il être, si le rire est mécanique, il y a une mécanique du rire, et cette espèce d'immense chose un peu sacralisée, élitiste, bizarre, qu'on appelle littérature. Je dirais que s'il y a un point commun, et c'est peut-être pour ça qu'on discute aujourd'hui, c'est la question de la satire. La satire, c'est-à-dire la description. En fait, une représentation n'est jamais neutre. Quand on représente quelque chose, un personnage, quelqu'un, Quand, par exemple, quand tu parles du sketch sur les gens de gauche et que tu les décris, cette représentation, elle n'est pas neutre, elle est critique, en fait. C'est ce qu'on appelle, c'est la satire. C'est-à-dire, je représente le monde dans lequel que je traverse et je transmets cette représentation au public et je les fais rire avec. Et je les fais rire, pourquoi ? Parce que je la mets en tension, cette représentation. C'est-à-dire, elle est un peu outrancière, elle est un peu borderline, tu bordélises le réel en réalité, en le transformant, en le rendant un peu anormal, en le rendant bouffonnant. Et ça, cette manière de représenter le monde, le personnel, les gens que tu croises, c'est une création, c'est aussi un travail de création. Et ça, c'est présent. Présent dans les romans. Enfin, pas dans tous les romans, bien sûr. Mais dans certains romans, il y a cette volonté de d'écrire le monde tel qu'il est, tout en subtilement ou outrageusement le grossir, l'affecter, en fait, d'un timbre. Alors, ça peut être le timbre du rire, ça peut être aussi le timbre tragique. Peut-être qu'il y a cette fonction de critique sociale que tu endosses, en fait, et qui est audible. Enfin, je veux dire, heureusement que vous êtes là, heureusement que tu es là pour dire « Hey, les gars, ça déconne !»
Oui, mais c'est... Enfin, on est un accès. On n'est pas... comment dire ? En fait, on est une manière de dédramatiser un sujet qui permettrait éventuellement aux gens d'aller l'approfondir, mais on peut pas l'approfondir. Et c'est une frustration, hein, mais c'est, en même temps, c'est un travail. Peut-être que dans 20 ans, j'arriverai au niveau d'écriture que je souhaite et que j'arriverai sur scène à aller aussi profond que je veux, enfin aussi loin que je veux dans le développement des idées.
Est-ce que, par exemple, le modèle, c'est pas Guy Bedos ?
Non.
Pas du tout. Ah bon, d'accord.
Non. En fait, non, parce que... Je préfère avoir comme modèle vraiment des auteurs de livres.
Victor Hugo.
Ouais, ou... Non, mais par exemple, je prends l'exemple de Céline, qui m'a vraiment... Quand j'ai lu la première fois... Le voyage au bout de la nuit, j'étais perturbé de voir les punchlines qui étaient écrites. C'est-à-dire qu'en une phrase, on avait une idée hyper complexe. J'ai des phrases comme ça en tête. À un moment où il décrit une femme, il dit « Elle s'était arrêtée au bord de la beauté ». Enfin, c'est pas la phrase exacte, mais c'est à peu près ça. « Elle s'était arrêtée au bord de la beauté ». En gros, il décrit une femme qui est belle, mais il ne sait pas pourquoi, il ne la trouve pas belle. Parce que c'est la femme du bijoutier et elle est derrière sa caisse, elle est pingre et donc elle respire tout ça et il n'arrive pas à s'y attacher effectivement. Et donc il dit elle a tout pour être belle, mais il y a un truc en elle qui fait que elle est moche. Ça, c'est un truc, quand il dit elle s'est arrêtée au bord de la beauté, je me dis ok, en une phrase j'ai tout compris. Et ça, sur scène, c'est ce que je recherche, c'est réussir en une phrase à décrire quelqu'un. Parce que rythmiquement j'en ai besoin, moi. À un moment il parle de la banlieue, il dit c'est là où la ville vient vomir son luxe. Et en fait on a tout de suite l'idée des beaux quartiers et la banlieue, et à un moment ça se dégrade, il faut bien mettre les poubelles quelque part. Et voilà. Et donc ce sont des phrases comme ça qui m'ont marqué. Et non, le modèle c'est pas les humoristes, parce que on n'a pas encore. Peut-être Pierre Desproges est arrivé vraiment à toucher du doigt ces systèmes de j'arrive à te faire rire et en même temps je suis en train de d'écrire quelque chose de beaucoup plus au-delà de ce dont tu es en train de rire, quoi. Mais le rire pur, c'est un accès, c'est une structure, comme tu dis, c'est mécanique. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Et j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre derrière tout ça pour que le rire soit un accès, mais que derrière, il y ait beaucoup plus.
Et c'est dans cette optique-là, quand vous faites en 2017, au Théâtre du Gymnase, ce spectacle spécial présidentiel, C'est cette optique-là de se dire c'est quelque chose de trop important pour ne pas pour ne pas en faire un sujet en fait et ne pas en parler sur scène et ne pas justement désamorcer. Vous disiez désamorcer certains sujets. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Vous dites à un moment je l'ai lancé un peu comme ça et mon producteur m'a cru et il m'a pris au sérieux. Mais qu'est-ce que vous avez en tête quand vous décidez de faire un spectacle pour la présidentielle?
C'est intéressant parce que justement j'ai en tête de faire quelque chose qui Alors, la genèse du truc, la raison pour laquelle je fais de l'humour, c'est qu'en effet, j'ai des influences qui sont des influences d'humoristes qui étaient plutôt politiques. Mais j'ai pas envie d'être un humoriste politique parce que ça me dégoûte de plus en plus et j'ai pas envie d'en parler régulièrement parce que ça devient vraiment une télé-réalité. Enfin, ils sont plus drôles que moi de toute façon. Mais à la base, ce sont mes modèles. Donc, je fais quelque chose qui est de l'ordre de « je vais moderniser ». L'humour politique, parce qu'on pense à Guy Bedos, on pense à des proches, et il y a moyen de faire quelque chose au XXIe siècle qui peut s'apparenter à ça avec un humour qui est plus. Enfin, qui est rajeuni, disons. Je grossis le trait, mais voilà. Et puis, je m'intéresse à ça, et en fait, je vois la campagne politique, et je me dis, ah, j'ai pas du tout envie de parler d'eux, ça me saoule. Toutes ces affaires, tous ces trucs, ça devient n'importe quoi et je vais rajouter une couche et je vais reparler d'eux. Et au final, en écrivant, je me dis mais moi, qu'est-ce que je vais voter? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire vraiment personnellement? Et c'est devenu un spectacle qui était plus la question de qu'est-ce que c'est qu'être un électeur aujourd'hui.
On apprend quand même dans le spectacle que vous n'avez pas voté au cantonal. C'est mal.
Ouais, c'est une grosse révélation. Mais donc, je me fais un peu emporter par l'œuvre parce qu'au départ, je voulais faire une satire et je voulais faire ce que peut faire Guy Bedos avec des revues de presse et faire des vannes là-dessus. Et au final, ça m'ennuie et je me pose la question, mais qui je suis pour parler? Et en fait, je suis qu'un simple électeur qui se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Pour qui je vais voter? J'en avais aucune idée au moment où j'écris le spectacle. Écrire le spectacle ne m'a pas du tout éclairé. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'être un électeur? Qu'est-ce que c'est que de faire un choix? Et qu'est-ce que c'est que... Et peut-être ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Dominique. Qu'est-ce que c'est que d'être binaire, en fait? Il faut qu'on fasse un choix absolument. Et on doit être militant pour quelque chose. Et plus je regardais, plus je me disais, mais... Je me sens pas à ma place pour dire que cette pensée-là elle est bien ou elle est pas bien et au final je me dis je suis capable de défendre n'importe quoi en tant qu'humoriste. Si demain je dois faire un sketch en jouant un raciste pour dire que c'est bien le racisme, ça me dérange pas parce que ce serait une satire. Mais comme je fais une satire des gens de gauche, c'est pas à moi de mettre de la politique, enfin de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Et c'est là où je me détache un peu de Guy Bedos, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir une étiquette politique. J'ai envie
Il était étiqueté, c'est ça.
J'ai pas envie d'être dans un groupe et j'ai envie de pouvoir garder cette possibilité de me moquer de moi, même si je suis en train de penser quelque chose. Donc au final, c'est devenu ça, ce spectacle. Et je suppose que ça fait partie de la création, c'est qu'à un moment, l'œuvre nous échappe et puis ça devient ce que ça devient. Et tant mieux ou tant pis, quoi.
Dominique, tout à l'heure, on parlait de l'origine de ce philosophe Héraclète, selon Héraclète, le fameux. Quelle a été l'origine de la ville égale? Parce qu'on a parlé de la création des personnages un petit peu, mais pas de l'origine même. L'action se situe à l'automne 2001. Je reviens là-dessus parce qu'il y a le spectre des élections qui vont arriver. Il y a le 11 septembre qui vient d'arriver. Comment est-ce que, quel a été le point de départ de ce livre qui est, on l'a dit, à voix multiples et beaucoup de voix de femmes?
Je ne sais pas du tout. Là, pour la question de l'origine du livre, je sais juste qu'il y a un temps très long, évidemment, de fabrication. Il m'a juste semblé tout de même que... il était intéressant de faire un petit décalage temporel dans le passé, c'est-à-dire de se remettre en 2000-2001, il y a 20 ans, pour arriver à situer le présent en cours. Voilà, qu'il fallait faire comme un petit crochet temporel pour qu'on prenne conscience qu'on s'inscrit dans une temporalité, quoi, dans un mouvement qui va vers le sens d'une intensification. Je ne sais pas si tu étais né en 2001 ou pas. Voilà, et puis en commençant le travail d'écriture, je me suis rendu compte que, en fait, en réalité, moi, ma vie d'enfant, d'adolescente et d'adulte avait été rythmée par les attentats. Je n'avais jamais pris conscience auparavant.
Depuis 95, tu veux dire ?
Oui, et en fait, je crois que ça commence aussi un peu avant. Il y a une... voilà, moi, le premier attentat dont je me souviens, je suis parisienne, j'habitais dans l'Est parisien, et c'est l'attentat de la rue de Rennes. Mmh. Et en fait, depuis, donc dans mes souvenirs, depuis l'attentat de la rue de Rennes, en fait, ça n'a jamais terminé, ça s'est jamais interrompu. Alors avec des groupes différents, des sigles différents, des cibles différentes, des discours différents, des contextes géopolitiques différents, mais en réalité, c'est la réalité de la ville, de Paris, dans laquelle je vis. Et l'enjeu, c'était avec le livre, c'était aussi de questionner ça. Qu'est-ce que ça transforme en nous ? En quoi ça peut nous transformer de vivre une vie entière dans un espace politique qui est rythmiquement scandé par des massacres. Comment les gens se transforment, comment les discours se transforment. C'est le cas de... Tous les personnages sont transformés, se métamorphosent sous l'effet de ce qui nous advient à tous. Et soit ils deviennent des monstres, mais les monstres ne sont pas simplement que des monstres, comme on le sait. On a une part monstrueuse et on s'identifie jamais entièrement à une part monstrueuse. Enfin, c'est la question des étiquettes, de décoller les étiquettes dont on parlait déjà. Voilà. Donc... mais bon, comme on le sait tous, il n'y a pas de limite à la représentation qui remet en cause le réel. Et donc, il n'y a pas un point limite avec les attentats qui ferait qu'il n'y a plus d'humour possible. Aussi fragile et aussi ténu cet exercice de l'humour devrait-il être ?
Non, mais... pour moi, c'est... en ce moment, ce n'est pas vraiment le séparatisme qui menace l'humour.
Au contraire, ça le nourrirait, ça pourrait,
oui,
l'alimenter.
Déjà, oui, mais le danger qui pèse, enfin, ou le stress qui peut peser sur les humoristes, plutôt via les médias, ce ne sont pas des séparatistes qui ont menacé le plus la liberté des humoristes. C'est la peur, c'est davantage la peur des réseaux sociaux qui peut menacer les humoristes.
La petite découpe des 30 secondes de spectacle qui...
Il y a ça, il y a le fait que les chaînes et le média regardent beaucoup les réseaux sociaux, donc c'est 0,5% de la population qui gueule. Ils en ont peur, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ils ont du mal à assumer ce qu'ils diffusent. Ça, c'est une menace pour l'humour. Ça, c'est en effet.
Alors concrètement, par exemple, ça donne quoi concrètement ? C'est-à-dire, on isole des énoncés, c'est ça ?
Non, mais concrètement, c'est une blague ratée. Quelle que soit l'intention, une blague ratée peut provoquer le fait qu'un humoriste se fait virer ou qu'il est annulé, la cancel culture, ouais. Quoi. Mais on peut parler du séparatisme, on peut parler d'une menace qui est spectaculaire. Le séparatisme, il y a une menace spectaculaire. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dis juste qu'elle est plus pratique, parce que beaucoup plus claire à décrire qu'une menace qui est plus sous-jacente, c'est la peur de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'on diffuse la responsabilité. C'est-à-dire que qui va être responsable d'une blague... Si moi, je fais une blague ratée sur TF1 à 20h, je fais une blague ratée sur une religion, sur les féministes, sur les noirs...
Non, on n'a pas le droit de faire des blagues sur les féministes.
Bref, imaginons que je rate une blague sur des gens qui... ou les victimes de quelque chose, je ne sais pas. Qui va être responsable de ça? Est-ce que c'est moi qui suis responsable? Est-ce que c'est la chaîne qui est responsable? Est-ce que c'est la production qui a vendu le programme à la chaîne? Et donc il y a une espèce de diffusion de la responsabilité où tout le monde flippe. Et au final,
personne ne veut rien faire.
Au final, le choix sera le plus simple, c'est de dire on l'a fait sauter. Et donc on peut me faire sauter parce que j'ai raté une blague. Et c'est possible qu'un jour je rate une blague.
Mais ça, c'est le propre du bouffon. Le bouffon, il plaisante avec le roi.
Bien sûr.
Et le roi, des fois, il n'est pas content.
Si moi je rate cette blague et je me fais virer, il y a une flopée d'humoristes qui vont associer le fait d'avoir fait une blague sur ce sujet au fait de rater une blague. Donc, on se retrouve souvent avec des questions qui sont « Ouais, mais aujourd'hui, on n'a plus la même liberté, on ne pourrait plus dire ce que dit des proches. » On peut tout à fait dire ce que dit des proches, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on associe parfois rater une blague avec le sujet de la blague. Et la menace aujourd'hui pour l'humour, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me moque d'un sujet quel qu'il soit. Si je me moque du racisme et que je fais une blague raciste, pour me moquer du racisme, il y a des gens qui vont croire que je suis raciste et des gens qui vont comprendre que je suis en train de faire du second degré sur le racisme. Et le problème, c'est que si les gens qui pensent que je suis raciste sont aux commandes, c'est moi qui vais sauter. Donc,
C'est dur, c'est un métier dur. Hein. Bon, c'est pas l'usine en même temps.
C'est sûr que c'est pas l'usine. Mais voilà, c'est juste pour dire que en gros, ce qui menace l'humour aujourd'hui, c'est pas tellement le séparatisme. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas les terroristes. Pour mon métier, en tout cas. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de mettre en perspective tout ça et de voir ce qui se passe concrètement pour la liberté d'expression aujourd'hui et voir ce que concrètement qu'est-ce qui menace concrètement la liberté d'expression.
Ouais, résultat, il faudrait que la charge mentale baisse un peu, quoi, messieurs, mesdames, les politiciens et les politiciennes.
Et c'est sur ce bel appel qu'on va malheureusement se quitter, puisque ça fait déjà une heure qu'on est ensemble.
Déjà.
Merci à tous les
Merci
deux
beaucoup.
D'avoir
Merci.
Été Merci. Avec nous. Je rappelle Dominique Dupart, La vie légale, c'est publié chez Actes Sud, et Haroun, Les pensées d'Héraclète, c'est publié aux éditions des Équateurs. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui.